RMC. Lay, l'amour et vous, Brigitte Lay.
Au programme de cette deuxième heure, on va parler de drague, de harcèlement sur le lieu de travail, un petit love conseil sur le manque de sexualité, et puis Barbara Pola qui propose de supprimer le concept de tromperie, et puis c'est Marc aussi qui nous parlera d'une séparation délicate. Mais on repart avec Charlotte qui nous avait révélé sa relation avec un de ses collègues, et nous étions avec Loïc Roche ce jour-là.
On peut rencontrer son conjoint sur le lieu de travail, mais effectivement, le plus souvent, ce sont des relations, on va dire, en dehors de la vie de couple à la ville.
Mmh. Mais tiens, justement, déjà, Charlotte qui réagit, vous avez 26 ans et vous avez donc eu une relation avec un collègue pendant un an et demi. Hein. C'est bien ça, Charlotte, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Oui, effectivement, donc, j'ai eu une relation d'un an et demi avec un collègue dans mon ancien travail. Il n'y a pas du tout eu de coup de foudre. C'était vraiment au fur et à mesure de se connaître et nos deux couples n'allaient pas très très bien respectivement. Et un jour on s'est vus et voilà, on a couché ensemble une fois et de là est partie une relation qui a duré un an et demi. Donc un an et demi de relation basée, on va dire pratiquement exclusivement sur le sexe. Mais qui pour, dans ma tête à moi, un petit peu, amener des sentiments.
D'accord, oui.
Donc, on était tous les deux en couple à l'époque. Moi, je suis donc au bout de 6 mois, j'ai rompu avec l'homme avec qui j'étais à l'époque. Mais en fait, le problème qui s'est posé, c'est que même si ça se passait très bien sexuellement et c'était vraiment, on va dire, l'éclate de se cacher et on était vraiment compatibles, des sentiments que je pensais amoureux, au final, on se rend compte quand on passe du temps avec la personne. Hors de tout ça, donc un petit peu comme dans un vrai couple, je me suis rendu compte que c'était vraiment le côté caché, le côté torride qui m'avait amené ces sentiments-là. Donc c'est vraiment un conseil que je donne aux auditrices, aux auditeurs, c'est que il faut se méfier des sentiments qu'on peut avoir quand sexuellement ça se passe très bien. Ça veut pas dire que le couple il se passera bien.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est finalement presque cette petite note d'interdit qui a provoqué autant d'excitation et éventuellement d'attirance.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un cas tout à fait particulier. On pourrait presque parler de relation intérim, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à un moment donné, pour un temps certain, avec des conditions tout à fait particulières. Et puis à un moment donné, on en fait un petit peu le tour et ça s'épuise. Mais si ça n'avait pas été sur le lieu de travail et dans ces conditions-là, sans doute qu'il ne se serait rien passé.
C'est ça, c'est totalement ça.
Oui, vous dites ça à ce point-là, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas eu le même travail, en fait, c'est-à-dire, je sais pas, vous l'auriez rencontré dans une soirée chez des amis, ce serait rien passé. C'est parce qu'il y a eu cette sorte d'affinité qui s'est créée avant la première fois où vous avez fait l'amour, que vous avez fait l'amour ensemble, quoi.
Il y a un moment.
Ah oui, c'est vraiment ça, ouais.
On peut aussi, le travail peut faire révélateur, c'est-à-dire qu'on va voir des personnes sur le travail qui vont être plutôt ouvertes, plutôt souriantes, ne serait-ce que pour tenir des règles de civilité. Si vous venez de partir de chez vous et que généralement c'est la guerre, c'est le conflit, etc., nécessairement, on va y avoir, on va dire, une sorte de, si ce n'est d'empathie, d'attirance, en tout cas d'envie d'être avec l'autre.
Bouffée d'oxygène, en tout cas, oui.
Absolument. Ça, c'est le premier point. Puis un deuxième point qui est beaucoup plus, on va dire, un petit peu en filigrane, c'est que les conditions de travail, quand même, aujourd'hui, sont extrêmement dures. Dehors, c'est la crise, c'est compliqué. C'est difficile et nouer une relation affective sur le lieu de travail, c'est aussi une façon, en tout cas moi c'est ce que j'estime être tout à fait important, de reconstruire du vivant en quelque sorte dans un univers qui malheureusement on le sait, parfois même au sens propre du terme, peut être mortifère.
C'est totalement ça.
Bon, en tout cas ça a quand même été une expérience intéressante.
Et ça m'a permis maintenant dans ma vie privée avec vos compagnons d'avoir été avec un homme qui était avec quelqu'un d'autre, de plus du tout être jalouse, je me prends plus du tout la tête sur des problèmes de couple comme je me la prenais avant. Donc ça m'a vraiment apporté beaucoup en tant que femme.
Oui, ça, visiblement ça vous a apporté une grande maturité.
Complètement, oui. Complètement.
Et puis je crois qu'on ne le dira jamais assez quand une femme, ça pourrait être un homme aussi d'ailleurs, quand une femme vit une expérience sexuelle très très épanouissante, ben elle devient femme, hein, son identité féminine se renforce. Hein. Visiblement, il vous a apporté ça aussi.
Ah oui, complètement. Complètement.
C'est-à-dire que sur le lieu de travail, il y a le travail proprement dit, mais il y a aussi finalement un travail sur soi.
Bah, joli, joli, Loïc Roche. Merci Charlotte de ce témoignage.
Merci
pour,
à vous
pour...
Brigitte, merci à votre invité.
On introduit bien le sujet, si je puis me permettre.
Dans l'absolu, on est là pour son travail. Maintenant, il va de soi que si on avait le choix, ce serait bien qu'il ne se passe rien. puisque dès qu'on commence, on va dire, non pas à mélanger, mais à mener de front travail et puis, on va dire, une vie affective.
Qui peut moi, j'ai fait sexualité. Ça pendant 4 ans, il y a très longtemps, ça marchait très bien.
Il paraît que ça marchait bien,
oui. Oui, ça va.
Mais ça fait un peu partie aussi
de... On me félicitait même.
Alors, je vais pas parler de ces métiers-là, mais tout ce qui est showbiz, tout ce qui est média, tout ce qui est politique, c'est tout à fait hors norme. C'est-à-dire que dans les lieux, on va dire, plutôt conventionnels de l'industrie, des entreprises, il y a évidemment beaucoup de relations, nécessairement entre collègues ou avec des hiérarchiques. Il est clair que par rapport aux trois métiers précités, on est quand même très, très, très loin.
Oui, c'est ça. Dans RMC, c'est largement au-dessus de la moyenne.
RMC, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, RMC est certainement au-dessus de la moyenne, oui.
La politique, ça, on s'en est rendu compte.
Alors, imaginez de faire la politique à RMC, alors là.
J'imagine. Oui. Mais ça, je vous confirme, hein, quand il y a des politiques qui arrivent, il se passe plein de choses.
Je ne sais pas s'il se passe plein de choses, mais nécessairement, partout, il y a du pouvoir. Et donc, le pouvoir, évidemment, j'allais dire, il est encore plus magnifié par les médias, le show business et la politique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'on va toucher à quelque chose au plus haut de ce qu'on peut imaginer. Et donc, il y a nécessairement une attirance, comme d'ailleurs, on pourrait remarquer que dans les relations, le plus souvent, en proportion, même si évidemment, naturellement, il y a plus de collègues, donc il y aura plus de choses entre les collègues, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le hiérarchique.
Mais est-ce que vous ne croyez pas non plus que ces métiers, la politique, le showbiz, le journalisme, c'est quand même des métiers qu'on choisit de faire parce que narcissiquement, on est un petit peu plus en demande de reconnaissance. Enfin, il y a peut-être un peu de ça aussi, non ?
Il y a à la fois la demande de reconnaissance et puis il y a également, lorsqu'on est de l'autre côté, c'est-à-dire lorsqu'on est en position de diriger par exemple un pays ou de diriger une radio ou simplement même d'être journaliste ou en tout cas quelqu'un qui compte au sein d'un média ou du show business, à un moment donné, il y a le cumul, c'est-à-dire que je suis en position de toute puissance presque par rapport à mon métier, parce qu'effectivement, je suis admiré, etc. Et de la toute puissance dans mon métier à la toute puissance sexuelle, au moins fantasmée, car on sait bien que la réalité, c'est pas forcément ça, eh bien, il y a effectivement une continuation. Et de même, dans les entreprises où il y a beaucoup d'innovation, très souvent, la pulsion créatrice n'est jamais très très loin de la pulsion sexuelle, et donc on aura plus de relations sexuelles dans les start-up. Alors certes, vous me direz, parce que les gens aussi sont plus jeune, naturellement ça y fait, mais ça marche aussi là. Donc dans les boîtes où il y a de la souffrance, on en a pas mal, ça c'est, on va dire, un mécanisme de défense pour reconstruire du vivant, et dans les boîtes où il y a de l'innovation, parce qu'encore une fois, la pulsion sexuelle, Freud l'avait dit depuis très très longtemps, n'est jamais très loin, ou inversement de la pulsion créatrice.
Virginie, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Laroche.
Vous avez 23 ans et vous avez donc subi du harcèlement dans sur votre lieu de travail, hein?
Oui, tout à fait. Ben, j'étais agent de sécurité à l'époque et donc là j'ai arrêté ce métier et j'étais entourée que d'hommes et effectivement j'ai subi du harcèlement moral principalement par mon patron. Bon, ça n'a rien à voir avec des sujets de sexualité, mais c'est un sujet qui me touche énormément et j'espère que ça aidera certaines personnes qui m'écoutent actuellement, quoi. Et donc j'étais en apprentissage et j'ai subi du harcèlement moral pendant 2 ans.
Et ça se manifestait comment, Virginie ?
Eh ben le patron me faisait travailler des heures inimaginables. Je travaillais du 56 heures semaine et j'étais apprentie. Je travaillais toute seule sans maître d'apprentissage. Il fallait que je réponde à de nombreuses interventions et les véhicules et matériels étaient illégal.
C'est très intéressant parce que vous dites d'entrée de jeu, c'était du harcèlement moral, ça n'avait pas à voir avec la sexualité. Moi, je défends une toute autre idée, pas nécessairement dans votre cas, mais le plus souvent, et là, il faut pas s'y tromper. Derrière tout harcèlement moral, il y a quelque chose qui a à voir avec le harcèlement sexuel, simplement, c'est une forme détournée pour ne pas passer à l'action. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'humiliation, c'est quelque chose qui renvoie aussi à une forme d'excitation extrêmement forte par rapport à la personne qui fait subir ça. C'est comment finalement imposer une forme de pouvoir, faire de vous sa chose. Simplement, c'est pas la posséder complètement, puisque je ne possède pas son corps, mais quelque part, ce sont exactement les mêmes mécanismes à l'initial.
Oui, en tout cas, ça devait être un homme qui a des sérieux problèmes avec les femmes et votre féminité devait le déranger et donc il a essayé de vous détruire. Hein,
oui, et puis en plus, après j'ai continué dans d'autres entreprises et effectivement, j'étais une fille qui était jeune et en plus plus surdiplômée par rapport à eux, ce qu'ils toléraient pas du tout, quoi. Et j'en subissais les conséquences au boulot, quoi.
Là, on a autre chose, hein. C'est-à-dire, effectivement, quand vous vous retrouvez surdiplômé, etc., il se peut dans les entreprises, et c'est extrêmement triste, mais il en existe malheureusement, même s'il y a évidemment de très très belles entreprises, où tout est fait pour effectivement nier la valeur de la personne et la rabaisser, encore une fois, en faire leur chose. Et effectivement, quelqu'un de surdiplômé, en plus, quand c'est une jeune fille, et en plus, si celle-ci est jolie, il y a quelque chose qui parfois est insupportable pour un homme.
Oui.
Il y a encore des machos, alors?
Ce sont pas des machos, ce sont de tristes cires.
Donc Virginie, vous avez, bon, je crois aussi que vous étiez très jeune, donc c'est difficile, hein, parce que au fond, c'est ce qu'on dit souvent, le conseil qu'on donne, c'est de tout de suite mettre le holà. Mais quand on est très jeune, on n'est pas encore très prévenu, hein, de tout ça, et donc on subit un petit peu. Et puis une fois qu'on est dans la spirale, c'est de plus en plus compliqué, quoi.
Oui, puis on est au courant de rien.
Bien sûr.
Malgré qu'il y ait des documentations, etc. Quand on est jeune et qu'on débute dans un métier et en plus qui est particulier. Et ben en plus en tant que femme on doit ne rien dire, et au final moi je m'exprimais, et les choses qui j'aimais pas dedans, et ça m'a poursuivi après sur d'autres entreprises, et donc du coup j'ai arrêté et je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais il y a beaucoup de choses que je n'étais pas au courant et que j'aurais dû faire, comme contacter le conseil régional où je faisais mon apprentissage, et ils m'ont dit clairement que de toute façon ils auraient pu couper mon contrat d'apprentissage et j'aurais pu poursuivre pour passer mes diplômes. Mais moi j'étais au courant de rien à ce moment-là, et puis après suite à ça forcément j'ai fait une dépression, et voilà quoi.
Bon, en tout cas dites-vous une chose, c'est que vous avez appris beaucoup en peu de temps, même si ça a été douloureux et si c'est quand même un peu cher payé, mais au moins à 23 ans vous êtes un petit peu plus armée, me semble-t-il, pour la suite, hein.
Ah oui, ça c'est sûr.
Merci en
et
tout cas.
Et heureusement, j'ai été entourée de ma famille et de mes amis pour me soutenir à ce moment-là.
Oui, non mais justement Virginie, ça je crois que c'est intéressant ce que vous venez de dire. L'entourage, Loïc Roche, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que bon, Virginie, je suppose que vous en avez un tout petit peu parlé quand même de ce que vous subissiez au travail.
Ah oui.
Et donc on n'a pas su vous aider, on n'a pas su.
La première chose que peut faire l'entourage, c'est rassurer la personne, comme quoi ce qui arrive, c'est pas de sa faute et c'est elle qui est normale, ce sont les autres qui sont pas normaux. Et déjà ça, c'est réassurer la personne, comme quoi c'est pas elle qui devient folle dans cette histoire-là en quelque sorte. Et puis la deuxième chose, naturellement, c'est essayer de l'aider, de lui donner les conseils qu'elle a pas pu avoir, parce qu'elle a pas forcément eu là cette formation, d'ailleurs qu'il faudra avoir dans les écoles, que ce soit des grandes écoles, l'université ou autre, où effectivement il faudrait pouvoir mettre en garde et savoir quelles sont les marches à suivre. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas bouger, on n'ose pas bouger, on a peur de perdre son boulot, il y a tout un tas de fantasmes qui se mettent autour, et donc en fait, on se fait deux fois victime en quelque sorte. Et l'entourage, effectivement, c'est extrêmement important, et c'est une belle chance qu'elle ait eu cet entourage, parce que sinon, on ne serait pas où elle est aujourd'hui, parce que quand on fait une dépression, si en plus il n'y a pas l'entourage, c'est extrêmement compliqué.
Oui, ça peut amener au pire, justement. Merci Virginie de votre témoignage.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Quelle est la différence entre le mariage civil et le PACS ?
Alors, le mariage civil, si vous voulez, c'est une union légale, hein, purement prononcée par un officier d'état civil qui engage très fort. Et puis le PACS, c'est simplement un acte juridique qui permet d'organiser en quelque sorte sa vie sur certaines règles, qui soumet à des obligations, mais qui en même temps offre des avantages. Et puis l'un des avantages, c'est quand même de pouvoir se séparer plus simplement que dans le mariage civil.
Oui, on pourrait dire que c'est une sorte de contrat d'alliance, mais qui n'a pas ce même engagement que le mariage.
Exactement, on dit alliance sans alliance.
Voilà, c'est joliment dit. Voilà. Et est-ce que, vous qui aimez bien les enquêtes, Bruno Martin, est-ce qu'on voit des gens qui se sont paxés et qui finissent par se marier, ou est-ce que c'est pas...
Là, sur le plan des chiffres, je pourrais pas vous répondre avec précision, mais certainement, parce que bon, il y a un petit côté sacré et romantique dans le mariage civil ou religieux qui rajoute peut-être à l'acte d'amour ou au sentiment, au moins sur le plan mythique. Dans un couple,
en revanche, me semble-t-il, mais encore une fois là, je ne l'affirmerai pas de manière sûre, mais on se sépare tout autant quand on est paxé que quand on est marié. Il y en a pas un qui renforce plus que l'autre. Faut pas croire que c'est parce qu'on se marie que ça va être voilà. Plus solide. On voit bien que quelque part aujourd'hui, puisque c'est l'amour finalement qui maintient le lien plus que tout ce qui est d'ordre matériel. Au fond, mariage ou pax, c'est pas une sécurité d'engagement. vraiment...
Voilà, même si à mon avis on hallucine un petit peu le fait d'être plus libre dans le Pax, on s'en va pas plus d'un Pax que d'un mariage civil qui est quand même facile à rompre encore aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué.
De toute façon. Hein. Et puis, ce qui est intéressant aussi à remarquer, le nombre de mariages évidemment a plutôt diminué depuis 20 ans, mais il reste quand même encore assez élevé. On est un peu plus de 200 000 mariages par an, ce qui est pas rien.
Non, mais ça reste un bel événement de la vie. Je veux dire, ça reste quand même une espèce un sacre d'un amour pour dans l'esprit de pas mal, que ce soit religieux ou même tout simplement de l'ordre du romantisme et du sentiment. Hein.
Absolument, c'est plus romantique le mariage que le Pax. Et puis, je crois aussi que c'est un message qu'on transmet à sa famille, à son entourage, beaucoup plus que le Pax. Le Pax, finalement, c'est vraiment entre toi et moi, si je puis dire.
Voilà, on marie deux familles dans un mariage. D'ailleurs, c'est bien parfois le problème.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et nous allons du côté de rmc.fr. Justement, Julie Vendropé, c'est Émilie qui nous envoie ce mail. Moi, personnellement, je suis particulièrement romantique. Il n'y a rien de mieux que de m'offrir une fleur ou de m'emmener dans un très très beau décor romantique pour que j'aie du désir. Est-ce que ça, vous pourriez me dire si ça correspond à un fantasme ou si ça n'a rien à voir avec les fantasmes? C'est intéressant, oui.
Oui, tout à fait. Ça correspond surtout au fonctionnement plutôt féminin de la plupart des femmes. Donc, au niveau du désir, ont besoin de sentir qu'il y a un environnement, qu'il y a une attention qui a été portée sur son propre bien-être, ce qu'on pourrait appeler sa sécurité amoureuse et affective. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début d'une relation, quand un homme et une femme se rencontrent, justement, peut-être via une appli, via Tinder, etc., bien sûr qu'on n'a pas besoin, la majorité d'entre nous, de fleurs, etc. On est juste dans le moment, on a envie de conquérir l'autre. Et là, la femme peut aussi s'exciter juste de ses sensations physiques, de sentir voilà, peut-être sa lubrification, son envie, son désir, pas de problème. Et puis dès qu'on se met en couple, la femme et l'homme commencent à se distinguer. L'homme, il est toujours excité par un stimuli visuel, sexuel, une envie, un désir comme ça. La femme, elle a besoin d'abord de sentir qu'elle peut s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, elle a besoin de ce que cette auditrice nous dit. Peut-être pour elle, ça prend la forme de fleurs, d'un cadre, de bougies, d'un environnement. Pour d'autres, ça va être des petits mots gentils, une bonne ambiance dans la journée, peut-être des SMS, enfin des textos qui ont été lancés. Mais en tout cas, qu'elle puisse vraiment se sentir en sécurité. Et alors, elle s'ouvre et alors elle se connecte à son désir. Mais si tout autour d'elle ne fait que sentir justement le stress, qu'elle sent que l'homme, il vient, il lui tape sur les fesses, bon, on y va, et bien probablement qu'elle peut se refermer comme une huître et ne pas accéder à son propre désir à elle.
En tout cas, il faut donc communiquer votre fantasme romantique à votre partenaire pour qu'il en tienne compte, évidemment.
RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Alors, en fait, je vais vous parler des manques en sexualité, parce que quand notre sexualité ne va pas bien, si on exclut évidemment la maladie ou un véritable traumatisme, on pourrait simplifier à l'extrême et dire que c'est parce qu'il manque quelque chose. Alors, écoutez bien, je vais vous faire la liste de tous les manques qui sont possibles. Et si votre sexualité, elle n'est pas complètement harmonieuse, eh ben, essayez de voir quel est le manque qui vous concerne tout particulièrement. Alors, ça peut être un manque de permission, un manque de protection, un manque d'estime de soi ou de confiance en soi ou de confiance dans son partenaire. Ça peut être aussi un manque d'engagement dans la relation. Quand on n'est pas assez engagé, c'est parfois difficile d'avoir une bonne relation sexuelle. Ça peut être un manque d'intimité. Par exemple, vous avez les enfants qui sont juste dans la chambre à côté, ou pourquoi pas les parents hein, dans la pièce à côté. Ça peut être un manque d'identité sexuelle, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas tout à fait homme ou tout à fait femme. Ça peut être un manque de communication dans le couple. Et du coup, vous n'osez pas, et on revient donc à ce fameux manque de permission dont je parlais en premier. Donc, au fond, si on est à l'aise, si on n'est pas dans un manque particulier, notre sexualité est à peu près harmonieuse. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de chercher la perfection dans la sexualité, mais en tout cas, ça devrait aller assez bien. Donc, essayez de réfléchir, si ça ne va pas, quel est le manque en question qui, justement, vous manque. Je crois que vous avez décidé d'être un peu provoque aujourd'hui, Barbara Paula, bonjour.
Bonjour. En fait, on me dit souvent que je suis provocatrice, mais en fait, c'est juste parce que je dis ce que je pense et que ce que je pense, c'est un peu différent de ce qu'on nous dit de penser habituellement. Donc, mon but n'est pas d'être provocatrice en tant que telle, mais vraiment de dire ce que je pense, ce que j'ai appris, ce que la vie m'a appris, et d'essayer de le partager avec vous.
C'est ce qu'on va faire dans un instant, et on va revenir donc sur ce concept de fidélité qu'il faut peut-être, à qui il faut peut-être tordre un peu le cou. Mais d'abord, il faudrait peut-être justement abolir une fois pour toutes ce concept, et se dire que la seule vraie fidélité, ce serait la fidélité à soi-même.
Oui, je pense que celle-ci est essentielle. Et pour ça, il faut bien sûr conduire un travail qui est un travail quotidien, qui est d'essayer d'être en écho avec soi-même, de se rapprocher de soi, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, et d'être fidèle à ses propres exigences. Mais ensuite, la fidélité dans un couple, ça peut être tellement de choses différentes. Est-ce que la fidélité, c'est de désirer quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est, ou c'est justement de ne désirer personne d'autre, ou c'est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, ou d'échanger des SMS? On ne sait pas.
Mais chacun met la frontière
à des endroits extrêmement différents. Et en fait, moi, la définition que j'aimerais qu'on prenne aujourd'hui, être fidèle à quelqu'un, c'est l'aimer, et c'est l'aimer vraiment. Et si on ne l'aime pas, ou qu'on n'en prend pas soin, d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être ça qui serait trompé. Mais trompé, ça ne veut pas dire regarder les autres filles dans la rue, ou baiser ailleurs.
Ça peut être mal interprété, ce que vous dites, Barbara Paula, parce que ça voudrait dire que finalement, si on n'aime pas vraiment l'autre, on est responsable de son infidélité.
Oui, ça peut aller. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on abolisse le concept, si vous voulez, d'infidélité ou de tromperie dans le couple, au sens où on l'entend habituellement.
C'est des mots passéistes.
Je pense que, si vous voulez, c'est des concepts. Hein. Alors, bien sûr, je le dis avec mon expérience de vie. J'ai une vie derrière moi et c'est probablement plus facile de dire ça à mon âge. Mais j'aimerais vraiment offrir cette piste de réflexion au couple d'aujourd'hui et de dire l'être ensemble, l'amour, la rencontre, le développement de soi et de l'autre devrait pouvoir se faire en dehors du concept. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je trompe? Est-ce qu'il me trompe? Finalement, si on s'aime, on s'aime. Et que on aime d'autres personnes, forcément, on aime toujours d'autres personnes. Si ce n'est au même moment, de la même manière, ça sera un autre moment autrement. Et j'aime bien toujours reprendre cet exemple des enfants. Parce que moi, j'ai 4 filles. Et bien sûr, on va me dire, mais Madame Paula, vous êtes idiote, l'amour maternel, ça n'a rien à voir avec l'amour dans le couple. Mais c'est un très bel amour, l'amour maternel. L'amour, il se catégorise pas. J'ai un premier enfant, je l'aime plus que tout, j'en ai un deuxième, je l'aime plus que tout, je trompe le premier avec le deuxième. Non. Et donc, si vous voulez...
Mais c'est parce que dans le concept d'infidélité, au fond, Barbara Paula, c'est la question sexuelle. Hein, c'est...
Voilà. En fait, à ce moment-là, le concept de fidélité devient extraordinairement restreint. Bien sûr, la relation sexuelle est très importante dans le couple, mais si alors être infidèle, ça veut dire avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Est-ce qu'il se cache l'idée que, en fait, si l'homme que j'aime a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, c'est que je le comble pas?
Non, mais je crois que l'idée qui se cache derrière ça, j'ose le dire, c'est que on est toujours très inquiet, très en doute avec son identité sexuelle et avec sa sexualité. Et si l'autre a une sexualité ailleurs, ça nous met encore plus en doute et ça nous met en danger, hein, tout simplement.
Et c'est pour cela que, en fait, mon idée et mon conseil, c'est que ce soit homme ou femme, en fait, c'est de travailler sur soi-même. Et si effectivement l'infidélité de l'autre, quel qu'il soit, nous met en cause parce qu'on doute de nous-mêmes, eh bien travaillons sur nous-mêmes. Et si à ce moment-là l'infidélité sexuelle de l'autre ne nous met plus en cause, on peut la vivre tranquillement, le sachant, sans vouloir le savoir. Je veux dire, parce que on est d'une certaine manière tranquille avec soi-même. Et même la Bible le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, commençant à travailler sur nous-mêmes.
Mais ce qui se passe après, en dehors, après tout, que notre homme aille picoler avec des copains ou s'envoyer en l'air un quart d'heure avec une autre femme, qu'est-ce que ça peut faire si tout va bien dans le couple, au fond?
Oui, je pense que...
C'est ça que vous voulez dire.
Oui, tout à fait. Et je crois effectivement que c'est ce que Virginie nous disait d'une certaine manière en disant qu'elle voulait pas savoir. Ce n'est pas de la lâcheté du tout de pas vouloir savoir.
Non, c'est de l'intelligence émotionnelle.
C'est de l'intelligence, c'est un certain bien-être par rapport à soi, en se disant ce que fait l'autre ne va pas m'enlever à moi, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est aussi le respect finalement de la vie intime de l'autre, dont on, de toute façon, on ne sait jamais tout. Alors ça peut être s'envoyer en l'air, ça peut être passer un moment avec quelqu'un, ça peut être une amitié extraordinaire. Effectivement, l'amour est là. Et c'est ce que je voulais dire aussi de cet exemple par rapport à d'autres types d'amour et par rapport à l'amitié, parce qu'il n'y a pas que l'amour maternel, mais l'amitié, c'est aussi un sentiment extrêmement fort, mais qui peut être partagé entre beaucoup de personnes. Et on veut...
Cela dit, la jalousie en amitié existe. D'ailleurs, les enfants sont souvent jaloux entre eux aussi. Hein. Donc, on voit bien quand même que c'est intrinsèque à la nature humaine, la jalousie.
Oui, mais tout ce qui est intrinsèque à la nature humaine n'est pas forcément souhaitable.
J'ai pas dit
et
ça.
Je veux dire, on peut travailler là-dessus. Et la meilleure façon de travailler contre la jalousie, c'est effectivement la réassurance de soi-même. Et je veux pas dire qu'il faut être béat devant soi-même en disant « mais je suis tellement extraordinaire que… »
Je ne risque rien.
Je ne risque rien, c'est pas ça. C'est au contraire faire un travail tous les jours pour essayer de s'améliorer, pour se rassurer soi-même, pour avoir des choses en plus à donner. Et à ce moment-là, les questions de jalousie, d'infidélité, elle se défond d'une certaine façon, elle se délite, et c'est bien ainsi, parce qu'à ce moment-là, la vraie relation prend toute sa place.
Est-ce que l'homme et la femme ont le même rapport à la question de la fidélité?
Alors, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre sur la base de mes travaux, parce que dans Tout à fait femme, j'ai plutôt parlé de ce que je pense que nous devons faire aujourd'hui pour nous-mêmes, pas ce que nous attendons des autres, mais vraiment ce que nous femmes pouvons faire pour nous-mêmes, tandis que le livre sur les hommes est effectivement basé sur des entretiens.
Des témoignages.
Maintenant, tout le monde en fait me pose cette question que vous me posez, et je pense que peut-être le prochain livre sera une comparaison, où ce sera tout à fait ensemble, et quelles sont les différences. Mon intuition est que d'une manière comme d'une autre, si on ne pose pas la question à l'autre, que ce soit homme ou femme, c'est en fait faire preuve d'une grande maturité, c'est de respecter le secret de l'autre. Les hommes m'ont beaucoup parlé de cette nécessité qu'ils ont de leur secret. On parlait tout à l'heure aussi du téléphone portable, qui est vraiment le lieu...
Non, pas dit ça.
Puis c'est le lieu aujourd'hui où les infidélités se découvrent. Oubliez le téléphone portable. Mettez-le derrière la porte de Barbe Bleue. Je parle du secret de Barbe Bleue dans mon livre Tout à fait homme, cette idée qu'il y a une porte derrière laquelle on n'entre pas. De toute façon, c'est impossible de connaître tout de quelqu'un. Vous n'allez certainement pas découvrir les choses les plus importantes dans le téléphone portable, donc oublions-le. Et respecter le secret, c'est, je pense, aussi important pour les femmes que pour les hommes.
Je vous propose qu'on donne la parole à Alain qui nous a appelé et qui est avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour Brigitte, bonjour Barbara.
Bonjour Alain.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Je suis un petit peu ému parce que je vous écoute tous les jours étant commercial, Brigitte. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis marié depuis 13 ans, 15 ans de vie commune, 13 ans de mariage, 2 enfants. Je travaillais enfermé. Il y a 10 ans de ça, je suis passé commercial. Donc la liberté, bien sûr, le midi, on tue le temps. Hein, on fait les galeries marchandes. Et puis justement, on rencontre des femmes. Donc j'ai été infidèle. J'étais infidèle. Je suis également, j'ai commencé à sortir le soir avec les clients, de plus en plus. Et j'ai mis carrément de côté mon épouse, ainsi que mes enfants, donc ma famille. Mmh. Et ça depuis des années. Donc c'est devenu une routine pour moi. Il y a 4 mois de ça, j'ai vu un changement direct sur ma femme. Elle a toujours été féminine, mais là, elle a été encore de plus en plus féminine. Ça a été le vestimentaire, ça a été les ongles, ça a été les cheveux. Vous écoutant tous les jours, j'ai vu qu'il y avait un signal d'alarme. Et en effet, le signal d'alarme, elle a fait ce que n'importe quelle femme aurait fait. Elle s'est retournée vers un homme qui l'a conseillé, soi-disant. Il a conseillé de lui donner une épaule à qui parler. Sauf que les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même manière. Et moi, elle m'a carrément dit, c'est fini, tu pars de la maison, tu t'en vas. Donc imaginez bien le choc que ça m'a fait. Ça a été un tremblement de terre, car pour moi, c'était impensable que ma femme réagisse comme ça, et surtout me dise ça. Je sais que ça peut paraître bizarre à vos auditeurs, mais pour moi, c'était impensable qu'elle fasse ça et que ça lui vienne en tête.
Mais qu'est-ce qui était impensable? Qu'elle ait un amant ou qu'elle vous quitte?
Oui,
ou
qu'elle me quitte.
Qu'elle vous quitte,
qu'elle me quitte.
D'accord.
Ou même les deux, oui, même les deux, oui, qu'elle me quitte, oui. Oui, oui, j'ai pas dit que c'était la petite femme fermée à la maison qui s'occupe des enfants.
Non, mais vous aviez...
Mais c'était presque ça.
Vous aviez c'était une confiance inébranlable dans la solidité de votre couple.
C'est ça. Surtout, ma femme a toujours été, elle a toujours été droite et franche. Il y avait un truc, elle me disait, moi j'étais quand même plus serpent. Vous voyez ce que je veux dire?
Cela dit, elle est franche.
Oui, elle a été franche et honnête. Oui, oui, bien sûr. J'ai pas dit le contraire. Même, elle me l'a toujours dit. Elle m'a toujours dit.
Mais aujourd'hui, visiblement, sa décision est prise, Alain.
Alors, voilà. Moi, elle m'a dit, j'aimerais que tu quittes la maison ou quoi que ce soit. Ça a été un choc terrible pour moi. J'ai cru mourir. Et d'abord, j'ai failli faire l'acte, mais bon. Je suis pas parti de la maison. Je suis resté testard. Je suis pas parti de la maison. Pas voulu partir par rapport à mes enfants. D'un coup, j'ai réagi, j'ai réalisé que j'avais deux filles. Ça a été une révélation pour moi. Hélas, ça a été un mal pour un bien, mais bon. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup rapproché de mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, elle me dit plus de partir de la maison. Nous avons un projet de refaire la maison, l'intérieur de la maison. Mais bien sûr, elle me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si je t'aime encore, je ne sais pas si j'ai encore besoin de toi, j'ai peur de me tromper encore pendant 15 ans, de l'avenir, j'ai peur. Mais nous sommes encore ensemble. Je vois également qu'elle s'intéresse de plus en plus à moi. Avant, j'avais la porte de la maison qui était fermée, j'avais la table, l'assiette sur la table, elle n'était pas mise. Quand elle allait aux courses, elle n'achetait pas des biens personnels, vous savez, du gel, des trucs normaux, quoi.
Elle s'occupait. Vous n'étiez plus là, quoi. Elle vous signifiait
maintenant
que vous n'existiez plus.
C'est ça. Maintenant, je commence à revenir dans ses pensées. Attention, nous avons un dialogue. Nous avons un dialogue de la maison, nous avons un dialogue des enfants, mais il n'y a pas la cerise sur le gâteau. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle a pris sa décision?
Non, visiblement, tout n'est pas perdu, d'après ce que vous nous dites. Vous avez repris des activités sexuelles ensemble ou pas?
Ah, pas du tout, même pas nous embrassons, même pas.
D'accord.
Je parle de ça, ça fait 3 mois qu'il y a eu un gros clash.
D'accord. Est-ce que vous pouvez éventuellement avoir, la toucher comme on toucherait une bonne amie sans qu'elle se rétracte?
Maintenant, il n'y a que 15 jours de ça, oui. Là, quand nous avons commencé les travaux de la maison, nous pleurons, elle n'a plus le sursaut de dire « ne me touche pas ».
Elle sait que vous avez été particulièrement infidèle à un moment donné?
Pas du tout. Non, j'ai jamais, je n'ai pas pu.
D'accord. Ok. Donc ça pourrait être simplement parce que vous l'aviez délaissée qu'elle a été.
C'est ça. Parce que justement, dû à ce choc, ça a été un choc terrible pour moi. Ça a été la fin du monde. J'exagère pas dans mes mots.
Mais c'est normal. C'est normal, Alain. Vous l'avez un peu délaissée. Elle a été chercher de l'oxygène ailleurs.
Je l'ai énormément délaissée, justement.
Mais au moins, ça vous a servi d'électrochoc.
Oui. Ah oui, ça a été un terrible électrochoc. J'ai perdu, presque jours, un mois. Ça a été.
Bon, il faut dans un.
J'ai lu un livre qui s'appelle Le langage de l'amour. Et j'ai appris son langage. Je sais qu'elle a deux langages, vous voyez. Des trucs tout bêtes. Quand elle fait un bon repas, simplement lui dire ma chérie, ce soir, tu nous as cuisiné un truc super, c'est terrible, merci. Vous voyez ce que je veux dire? Chose qu'avant, je ne faisais plus, je la regardais plus. Donc elle a eu une réaction logique, c'est de se retourner vers quelqu'un. Ce quelqu'un,
bien sûr.
C'est un homme, il lui a dit des belles paroles. Il l'a fait un petit peu rêver, et vous aussi, comme on dit. Mais... Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si notre couple va être sauvé ou si finalement...
Bon, alors dans un premier temps, Alain, il faut déjà que vous vous retrouviez votre splendeur, hein, parce que vous avez beaucoup maigri, vous avez dû être un peu déprimé, et ça, c'est pas forcément le meilleur moyen pour reconquérir une femme. Donc, dans un premier temps, il faut que vous repreniez confiance en vous, en tant qu'individu capable de la reséduire, et ensuite, ben, il va falloir en effet la séduire, comme on va séduire une femme qu'on vient de rencontrer, et la surprendre.
Et ça montre aussi votre histoire, Alain, je trouve, montre aussi de façon extrêmement claire l'importance pour chacun de nous de se poser la question de ce qu'on veut vraiment et de pas attendre que votre époux, bon, cette fois-ci c'est fait, mais je veux dire pour les auditeurs qui vous écoutent, ne pas attendre le moment où effectivement il y a un clash qui se passe pour se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment de moi, qu'est-ce que je veux donner et qu'est-ce que je veux de ma vie, est-ce que ce que je veux, c'est cette pseudo-liberté de l'homme qui sort le soir, ou au contraire, je veux cultiver ma relation avec ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que je veux moi-même? Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Et quand je dis qu'il faut être en écho avec soi-même pour pas générer ou pas vivre de façon inadéquate une infidélité, c'est en fait ça, c'est de faire ce travail au quotidien, de se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment de moi et de mon existence.
Oui, en même temps, Alain, vous avez eu envie à un moment donné de profiter de votre entre guillemets liberté, pourquoi pas. Ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, c'est que vous ne vous sentiez pas coupable de ces moments, on va dire, d'égarement, hein, porter de jugement de morale, parce que si vous vous en sentez coupable, allez en parler à un psy ou à un prêtre, parce qu'autrement vous allez avoir une réaction qui va nuire à votre couple.
Justement, c'est drôle que vous parliez de prêtre, parce que je me suis rapproché, énormément rapproché auprès de la religion, de la Bible et des valeurs de famille. Voilà. Et moi-même, je me dis, mais je suis passé complètement à côté de ma famille.
Non, vous êtes. Mais non, Alain, vous n'êtes pas passé à côté puisque vous êtes en train de la retrouver. Vous avez eu vous avez eu ce qu'on appelle un moment d'égarement. Et si vous lisez la Bible, dans la Bible, il y a des tas de moments d'égarement. Et la Bible, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une morale qui nous montre qu'il faut toujours être dans le bien. C'est une histoire qui nous montre à quel point le bien et le mal sont présents à chaque instant et qu'il faut avoir un peu de discernement. Puis quand on s'est égaré, eh bien, il faut revenir dans le chemin qui nous convient.
Et que chaque expérience nourrit en fait votre existence, cette question de la séduction, de retrouver la séduction et pas seulement la Bible dans votre couple, si j'ose ainsi m'exprimer.
Oui. Et disons qu'en même temps, moi je suis allé très loin, hein. J'ai vu avec qui elle communiquait, je lui ai téléphoné, je suis allé chez lui, je lui ai coupé l'herbe sous le pied, comme on dit, quoi. Et puis elle a plus de contact avec, hein. Elle a plus de contact avec lui.
Laissez votre rival de côté. Ne le faites pas exister même dans vos pensées. Le tiers, c'est le serpent, hein, si on revient dans l'image de la Bible. Et si vous laissez le serpent revenir dans votre couple, ça va pas être bon, hein, on est d'accord. Donc le tiers, vous l'oubliez, cet homme, il n'existe plus. Hein. Et vous êtes un nouvel homme qui va essayer de séduire une nouvelle femme. Surprenez-la. C'est ce qu'on oublie souvent. On essaye de reséduire sa femme avec les mêmes ingrédients, mais elle vous voit venir.
C'est autre chose, voilà. Elle veut vibrer. De toute façon, vous savez, je vous écoute quasiment tous les jours. Elle arrive à la quarantaine. Elle a fait une petite crise de quarantaine. Est-ce que je peux encore séduire? Est-ce que mon mari ne me regarde plus? Est-ce que d'autres hommes peuvent me regarder?
Eh oui, mais vous aussi, vous avez votre crise de la quarantaine.
Le truc de dire waouh, c'est mon mari qui. D'abord, je lui envoie des textos.
Je vous fais confiance, Alain. Je suis sûre que vous avez beaucoup de ressources pour arriver à la surprendre et la reséduire.
Et d'ailleurs, la séduction n'a pas d'âge. Et l'amour n'a pas d'âge, la séduction n'a pas d'âge. Mais ça, on peut évidemment le dire que quand on en a un certain.
Merci beaucoup, en tout cas, Barbara Pola, d'être venue nous voir. Tout à fait homme, c'est aux éditions Odile Jacob. Vous parlez des hommes, justement, avec beaucoup de lucidité en tant que femme. C'est pas si fréquent que ça pour être signalé.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Juliette qui nous écrit. C'est mon papa qui a actuellement un cancer. Je vous ai entendu parler de médecine douce et je voulais savoir qu'est-ce qui peut aider justement dans ce cas-là. Merci de votre réponse. Alors, rappelons-le, hein, bien sûr, il n'est pas question de ne pas continuer la médecine traditionnelle lorsqu'il y a un cancer. Hein,
pas question de toucher au programme et justement à ce qui a été proposé par la médecine. Par contre, un accompagnement peut aider à supporter aussi les soins qui sont aussi violents, hein, la chimiothérapie, les rayons, on peut aider. Et aujourd'hui, il y a des coupeurs de feu qui sont intégrés dans des milieux hospitaliers par rapport aux brûlures.
Je pense que c'est toujours pareil, ça va dépendre aussi de quel est exactement le traitement que suit le père de Juliette. On ne peut pas donner comme ça une réponse très, très précise.
Tout ce qui pourra le relaxer, je dirais. Hein. Donc, on parlait du toucher tout à l'heure, donc la bioénergie, le massage, le yoga, tout ce qui va pouvoir détendre ces tissus qui sont agressés actuellement par la maladie et par les traitements.
Voilà, et puis pas hésiter à communiquer avec lui, peut-être qu'il a envie de dire des choses.
Certainement,
oui. Voilà, parce que c'est aussi des moments de vie où, quelque part, j'ai tendance souvent à dire que c'est des moments où on a besoin de redonner du sens à ce qui nous arrive, c'est important, même si évidemment, il n'y a pas de vraie raison ou pas, de parce qu'on a un cancer ou pas, je veux dire, il n'y a pas de...
Non, mais ces moments sont très forts. Et nous permettre d'aller à l'essentiel, ce qui n'est pas le cas dans notre société qui est assez axée sur le superficiel. Mais dans ces moments-là, on va à l'essentiel, on perd pas de temps. Et ça, c'est profond et c'est touchant. Moi, c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est travailler avec des gens qui ne sont plus là en train de jouer la comédie, de se la jouer, comme on dit. Mais là, on parle de choses profondes, graves, et on va à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essence même de l'homme.
Voilà, et c'est toujours des moments où on est transformé, et ça c'est quand même aussi très intéressant.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC, Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Et pour ces quelques minutes qui nous restent à passer ensemble, je vous propose qu'on écoute Quentin. Il était devenu un autre homme depuis qu'il était devenu papa. Et puis, Ugren était revenu également sur la perte de virilité des hommes. Et je crois que c'est important à signaler, c'est que pour l'homme, sa sexualité, c'est quand même un pan entier de sa personnalité.
Pour les deux, hein, mais pour lui,
mais
beaucoup.
Mais plus encore que pour la femme, je pense.
Parce qu'il se sent vite mis en cause par les difficultés sexuelles, donc tout de suite, il se sent atteint dans sa virilité, comme si la virilité était lié à une espèce de performance, et ça c'est une idée qui est très trompeuse et qui produit beaucoup de douleur. Je crois que justement
c'est d'ailleurs tellement pour ça qu'ils souffrent en silence et qu'ils n'osent pas en parler.
Exactement.
Tellement
c'est douloureux. Je suis très, très étonné, parce que je fais maintenant pas mal d'informations sur la sexualité, je suis très étonné d'entendre la réaction des hommes surtout, qui disent, mais si je viens écouter quelque chose sur la sexualité, c'est que forcément je vais m'afficher comme ayant des problèmes et que ça, c'est pas possible. Alors les femmes, c'est un peu beaucoup moins, mais un petit peu aussi. Comme si voilà, on devait avoir une espèce de pertinence sexuelle, une espèce de perfection, et que si ça c'est un petit peu remis en cause, c'est comme si du coup ça abîmait l'image qu'on a de soi. Et ça c'est dommage, parce que je crois que c'est pas à vous que je vais le dire, hein, mais la sexualité c'est quelque chose de complexe, qu'on a tous des endroits où c'est
mieux,
on est à l'aise,
puis
des endroits où c'est moins bien, et que voilà, que c'est une fonction qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on essaie de la comprendre, qu'on essaye de mieux la vivre. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir aborder avec beaucoup plus de tranquillité que ce qu'on fait le plus souvent.
Et oui. Et alors la question que je vous pose, Ugren, vous qui travaillez beaucoup sur la parentalité, en quoi le fait d'être papa pour un homme, c'est quelque chose de d'important qui lui l'aide à se construire en tant qu'homme, on sait que chez la femme, souvent, tant qu'elle n'a pas été mère, elle ne se sent pas femme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent chez l'homme ou pas du tout ?
Si, bien sûr, parce que c'est la... Alors, il y a plusieurs dimensions dans avoir un enfant. Hein. Il y a une dimension sociale, c'est avoir un enfant comme les autres, mais c'est aussi la transmission de ce qui m'appartient. C'est d'ailleurs extrêmement important aussi, d'un point de vue même bien matériel, j'entends. Mais aussi transmission de la façon dont je vis, dont je pense. Donc, c'est quelque chose d'assez intime, en fait, cette parentalité. Et puis, il y a aussi, dans cette parentalité pour l'homme, quelque chose qui est la preuve de l'amour qu'il a aussi avec cette femme et que c'est quelque chose qu'on fait à deux. Donc il y a plusieurs dimensions dans dans le fait que l'homme se reconnaît dans cette parentalité.
Une femme qui est tombée enceinte, j'ai bien tombé parce que c'était vraiment pas voulu. Son mari, alors qu'ils avaient déjà un enfant, voulait qu'elle avorte, elle n'a pas voulu. Et on sentait que cet homme, au fond, ne pouvait pas se sentir père. On a l'impression que chez l'homme... Tant que la femme est enceinte, finalement, la réalité de sa paternité n'est pas évidente.
Oui, complètement. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, la femme avec laquelle on vit est enceinte et on est un petit peu, on a comme un temps de retard, je trouve. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Un temps de retard sur ce qui se passe. Et quand on court un peu après, comprendre ce qui nous arrive et au moment où l'enfant arrive, je me rappelle très bien, moi, pour ma première fille, bon, Dieu sait si je l'aime, mais quand il a fallu comme ça lui donner un prénom à toute vitesse, j'ai pas pu et j'ai dit, mais il faut que je la voie, que je la sente vivre. Et ça a été compris, alors que je suis médecin et c'était dans la clinique où j'étais, hein, un peu comme, tu n'es pas assez investi dans la paternité. Alors qu'au contraire, moi, c'était, mais ça mérite réflexion, tout ça, c'est trop grave, quoi.
Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose que, aussi bien les hommes et les femmes doivent comprendre. On ne réagit pas de la même manière face à la parentalité. Et c'est à chacun de s'adapter à l'autre, en fait. Hein.
Et puis, je crois que c'est dans certains cas vrai pour les femmes aussi. Parce que je vois bien dans certaines. Il y a pas mal de femmes que j'ai rencontrées qui avaient eu des césariennes et qui se sentaient comme si tout d'un coup cet enfant tombait du ciel et qu'elle ne l'avait pas vraiment accouché.
Mis au monde,
mis au monde, que ce soit physiquement ou psychiquement, c'est pas le problème des césariennes en elles-mêmes. Mais c'est dans le vécu, il y avait quelque chose dont elle a l'impression que c'était parachuté comme ça et qu'elles avaient un petit peu du mal à démarrer cette relation. Donc je crois que les circonstances vont être variables, mais c'est vrai que pour l'homme, je crois que c'est un peu pas toujours très simple.
Question pour vous, Ugraine, comment parler des règles à ma fille et à quel moment faut-il en parler?
Alors, je crois que le problème des règles, entre autres, c'est le problème de notre tranquillité ou pas devant cette question. C'est-à-dire que je pense que ça devrait se faire naturellement. Et alors, je vais prendre l'exemple de ma fille, par exemple, puisque je lui avais demandé comment ça s'était fait, puisque ça s'était pas fait avec moi. Et en fait, ça s'est fait très naturellement, parce que comme elle inventoriait tout ce qu'il y avait dans la salle de bain pour quand elle était petite fille, enfin... jeune fille, on va dire, pas encore adolescente, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait se mettre sur les lèvres, sur les joues, etc. Elle a découvert un jour des Tampax. Alors elle a dit à sa mère, mais c'est quoi ça? Et maman a expliqué tout à fait naturellement ce que c'était, et ça a fait aucun problème. Mais elle serait tombée sur moi au même moment dans la salle de bain, je lui aurais expliqué tout à fait naturellement à quoi servaient les Tampax. Et donc elle aurait compris ce que c'était que les règles. Donc je crois que le problème, c'est pas tout d'un coup de se dire, allez, on va mettre ça dans une case, c'est à tel endroit, il faut faire ça.
Ma fille
vient là, je vais t'expliquer la vie. Je crois que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe très naturellement. L'enfant étant curieux de beaucoup de choses, la petite fille va être curieuse de sa maman, qu'est-ce qui se passe, elle va poser des questions si elle se sent en confiance, et si l'adulte est tranquille avec cette question, et les choses vont se faire naturellement.
Alors peut-être rappeler de manière très concrète, à partir de quel âge peuvent apparaître les règles chez une
oui,
jeune
fille? Oui, ça va dépendre un peu de plein de choses, mais on va dire 12, 13 ans, 14
ça,
ans,
voilà. Donc c'est à partir de 11-12 ans qu'il faut commencer à laisser traîner un tampon périodique quelque part. Quentin, on vous a fait un petit peu attendre, mais ça en valait la peine parce que vous allez avoir sans doute une très très belle réponse de Ugraine. Bonjour Quentin.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Vous avez 24 ans et votre femme donc a accouché il y a 7 semaines et ça a provoqué un véritable bouleversement en vous.
Oui c'est ça, en fait ma vision a totalement changé du fait de l'accouchement. Surtout qu'elle a fait ça sans péridurale. Enfin, vraiment, je l'ai vu différemment. Je l'avais jamais vu comme ça. Et ça a vraiment changé ma vision envers elle, quoi. C'est épatant.
Alors, c'est quoi que vous avez vu et en quoi c'est épatant?
Voir, en fait, l'épreuve, vraiment l'accouchement lui-même, parce que j'ai eu la chance de pouvoir tout regarder, vraiment participer à ça avec elle. Et ça a été une épreuve qu'on a vécue vraiment à deux. On était vraiment en osmose. Et la force de caractère, que ce soit physique ou mental, pour arriver à mettre au monde un enfant, quoi. Et je pensais pas que ma femme
avait cette force-là, c'est ça.
Voilà, ouais, c'est vraiment ça en fait. C'était...
Ah, mais c'est très important ce que vous dites. Mais alors après, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans l'accouchement, il est demandé à une femme, mais à un homme aussi indirectement, de rassembler toutes ses forces et même de mobiliser des forces qu'elle n'a pas le plus souvent. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, l'accouchement, quand on le prend du côté de la vie, du côté de s'affronter à cette expérience et pas passer à côté. Et je pense que votre femme a fait ça et qu'elle vous a sidéré par la puissance de son être, et c'est très bien.
Oui, c'est vraiment une force que je pensais qu'elle avait pas. C'est vraiment le mot. C'est une force qu'elle avait pas. Qu'elle a sorti son épingle du jeu comme ça. C'était vraiment. J'en suis encore.
Bouleversé.
Pas traumatisé, c'est pas le mot, mais vraiment impressionné. Et je suis vraiment fier d'elle, quoi.
Vous savez ce qui fait que une des choses qui fait qu'on dépasse ses propres forces, c'est parce que. C'est l'amour qu'on porte à l'autre, et en l'occurrence à l'enfant. L'amour que la femme porte à l'enfant va lui donner des forces au-delà de ses propres forces. C'est extrêmement important à comprendre et encore plus beau à observer comme vous l'avez fait. Vous avez fait une très belle expérience.
C'est sûr que c'est magnifique, ça me marquera toute ma vie, c'était vraiment superbe.
Parce qu'en dehors de l'infertilité, je m'occupe beaucoup de la grossesse aussi, Brigitte,
mais je
comme
sais
vous
bien.
Le savez.
Je sais bien. Mais en même temps, Quentin, vous restez présent aussi, ne vous effacez pas devant cette femme qui tout d'un coup vous semble tout à fait forte et invincible.
Je crois que... Non, je m'efface pas, mais je me sens vraiment... En fait, avant, je me sentais peut-être un petit peu seul pour les choses compliquées. Et maintenant, j'aurais plus tendance à déléguer envers elle, à avoir...
Oui, mais je crois que ça, c'est une erreur, parce que les femmes aiment justement pouvoir s'appuyer sur un homme et sentir qu'elles ont un homme fort à côté. Donc, c'est pour ça que j'entends bien ce que vous dites, c'est formidable, vous avez vécu un accouchement extraordinaire, tous les deux. Mais bon, ça, c'était un moment particulier. Maintenant, retrouver votre place d'homme dans le couple, c'est important.
C'est absolument essentiel, hein, ce que dit Brigitte là. C'est essentiel parce que il y a une deuxième chose qui agit beaucoup dans l'accouchement et que vous avez peut-être pas bien aperçu, c'est votre présence à ses côtés. C'est-à-dire qu'il y a ce qui fait accoucher une femme, c'est ses propres forces, le fait qu'elle aime cet enfant et le fait que à côté d'elle il y a un homme qui l'aime et qui lui donne la force qui lui manque aussi. Et donc il y a trois forces qui font l'accouchement. Et donc je pense qu'en effet, parce que j'avais pas bien compris votre question, mais vous n'avez pas à vous sentir inférieur, pas du tout. Vous avez votre place spécifique. Et que la femme, comme le dit Brigitte Lahaye aussi, a besoin de cette force à côté d'elle. Donc vous n'avez absolument pas à laisser tomber cette place, au contraire.
Au contraire.
Vous devez la prendre encore plus.
D'accord.
Parce que ce qui est important, Quentin, si vous restez comme ça, béat d'admiration pour ce qui s'est passé, ben vous allez vous effacer devant la fusion mère-enfant et ça va pas fonctionner. Au contraire, il faut que vous retrouviez votre place. Vous êtes là aussi pour être entre la mère et l'enfant, entre aussi proche de l'enfant et puis proche de votre femme. Enfin, il y a ce trio avec toutes les possibilités de faire deux, quoi.
Et puis en face d'une femme forte. Il faut un homme fort, et que comme aussi ça a été dit tout à l'heure par Brigitte, il y a un moment où cette femme a manifesté quelque chose, mais elle n'est pas tout le temps cette force. Il y a des moments où elle ne l'a pas et où vous l'aurez. C'est une alternance aussi, ces forces. Il y a besoin de temps en temps de la force masculine, de temps en temps de la force féminine, et de temps en temps des deux plus l'enfant pour l'accouchement.
D'accord.
Surtout, n'ayez pas ce sentiment d'infériorité, reprenez toute votre place. Il faut deux forces.
Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils.
Il faut les suivre, hein.
Ouais, ça, on peut rien y faire.
Ça m'aide à y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Je pense que j'avais besoin aussi peut-être d'une petite période pour pouvoir justement digérer tout ce qui est nouveau, quoi. Il y a quand même l'arrivée de l'enfant, tout ça, c'était pas évident à gérer, quoi.
Je crois que ce serait extrêmement intéressant que, en discutant avec votre femme, vous rendiez compte à quel point votre présence l'a aidée. Parce que j'ai vu de tellement nombreuses fois des femmes le dire à leur partenaire, à leur conjoint, à leur mari, sans qu'ils l'entendent. Écoutez ce qu'elle a à vous dire depuis son expérience et le fait que votre présence a été aussi agissante.
D'accord. Ok.
Merci de votre témoignage, en tout cas, Quentin.
Merci beaucoup.
À vous. Au revoir.
Sur RMC. Ne ratez rien de l'AL Amourez-vous, en podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.